Bien le bonjour, nous sommes aujourd'hui vendredi et vers 7h de repas le vendredi en direct et un peu plus tard en rediffusion sur cette même antenne, sur Fréquencier, sur le 97.9. Vous avez l'occasion de retrouver l'hebdo des lycéens. Aujourd'hui, Laurine, Audrey, Pierre, Lise, Stéphanie et Justine sont ici en studio pour vous faire part d'un certain nombre d'actualités. Bon, on s'est dit, quelques temps avant Noël, on va pas faire dans le dramatique, on va plutôt essayer de trouver quelques informations un petit peu insolite pour vous faire un peu sourire, mais aussi réfléchir, car l'insolite pousse aussi à réfléchir. Et puis après, nous ferons un magnifique débat autour de Noël. Oui, on donne aujourd'hui dans l'extrême, extrême légèreté. Quoique, tous les sujets ne sont pas forcément dans l'extrême légèreté quant à la séquence de préparation de cette émission du côté légèreté. Bon, heureusement que c'est pas la télé et qu'on diffuse pas les coulisses. Laurine, de quoi tu nous parles ?
D'un aveugle qui prend des photos soi-disant formidables. Donc grâce à ses proches et à la mise au point de son appareil photo, une personne qui est aveuglée depuis l'âge de 12 ans, elle réalise de somptueuses photographies. Donc cette personne s'appelle Evgen Bafkar et malgré son handicap, il continue de faire des photographies et ainsi il poursuit son rêve. Pour compenser son absence de vision, il a mis au point une technique. Entouré de ses proches qui lui décrivent ce qui l'entoure, il évalue les distances avec son bras, puis il photographie. Bien sûr, il ne voit rien de ses photographies. Il s'agit pour lui d'une démarche philosophique car il photographie ce qu'il imagine.
Ça, c'est assez étonnant. On avait bien dit qu'on choisirait des infos insolites, mais celle-ci est vraiment complètement insolite. Ça te paraît vraiment étrange ou quelque part tu penses qu'il y a quelque chose d'assez logique dans le ressenti que peut avoir cet homme-là dans le fait de faire les photos, comme tu l'expliques là?
Bah, ça peut être un peu entre guillemets bizarre, mais après ils perçoivent pas les choses de la même manière que nous. Donc ce qui pourrait expliquer peut-être que ces photos, elles soient si jolies.
Donc des photos faites par un aveugle, oui, c'est le genre de plaisanterie qu'on se permettrait assez facilement derrière en fin de repas arrosé, même sur des fêtes comme Noël, etc. Sans penser qu'effectivement ça peut se faire de façon très 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 claire et très réfléchie. Il ne vend pas ses photos.
Non, je pense pas.
Non, il est fait à l'œil. Non, excuse-moi. D'accord, c'était un peu facile. Bien, on va continuer avec Audrey, qui va nous parler d'une histoire d'héritage. Ah, le pognon, qui c'est qui récupère le pognon de la dame âgée ?
Eh ben, c'est le chat.
Le chat, dans la bibliothèque avec la corde. Le chat.
Alors, Thomasino est devenu le troisième animal le plus riche au monde après que sa riche maîtresse italienne lui a légué 11 700 000 euros. Maria Assunta, décédée à 94 ans, n'avait pas de famille ni d'enfants. Le orphelin a aussi hérité d'un manoir près de Rome, de deux appartements à Milan et d'un territoire dans le sud du pays.
Très utile pour un chat.
Oui, tout à fait. La riche femme avait recueilli le matou près de la place Largo dans le centre de Rome, connu pour sa population féline. Évidemment, les avocats se sont chargés de trouver une association pour les animaux à qui reverser la somme, mais en vain. C'est donc l'infirmière de la vieille dame qui fut l'heureuse élue de cette petite fortune.
Donc la vieille dame aimait beaucoup les minets, c'est bien ça ?
Oui, elle adorait les animaux, voilà.
Alors, tu trouves ça assez étrange finalement que on décide comme ça de donner de l'argent à un chat,
bah,
un
c'est
animal.
Étrange, mais c'est mignon. Enfin, je sais pas, elle devait beaucoup l'aimer son chat pour lui donner autant d'argent.
Est-ce que tu penses que c'est un peu logique que finalement on puisse avoir autant d'affection pour un animal que pour des êtres humains ?
Moi, je pense qu'on est seul, on se repose sur les animaux. Enfin, ils ne nous jugent pas.
Ouais. Et ce sont des compagnons fidèles ?
Ouais.
Peut-être plus que les humains et
ouais,
peut-être pas aussi tordus que que les humains des fois. Parce que c'est vrai que des fois auprès des vieilles dames, je ne vais pas citer un nom bien connu en ce moment où il y a quelqu'un qui a quelques ennuis avec la justice, mais tout le monde aura reconnu autour des vieilles dames. Il y a souvent plein de gens qui sont là tout prêts hein, pour essayer de récupérer quelques sous. Le chat, lui, on ne peut pas l'accuser d'avoir tout préparé. Donc finalement, c'est allé à quelle personne infirmière,
ouais,
c'est ça ?
À son infirmière qui aimait aussi les animaux.
Et donc le chat, l'infirmière l'a adopté au moins, non ?
Oui, je pense.
Elle l'a pas mis dehors quand même,
non,
minimum. Minimum. Non, oui. Bien. Très bien. Et ben voilà, donc pourquoi pas. Je rappelle quand même que nous avons connu dans notre secteur ici des héritages miraculeux. Hein. Rappelez-vous quand même cet héritage miraculeux qui avait été fait à la mairie de Rouet en Champagne hein, par quelqu'un qui disposait d'une somme énorme et qui avait donné cette somme énorme à la mairie sous réserve de construire, je crois, des logements ou des lieux en fait pour les personnes âgées. Ben voilà, donc pourquoi pas. Pierre, tu vas faire de la délation, tu vas nous dénoncer quelqu'un.
Oui.
Aïe, aïe, aïe. Tu donnes pas de nom surtout. Hein.
Non. C'est un nom grec de toute façon. Donc
bon, alors on va pas comprendre.
Donc en Grèce, c'est la crise. Cependant.
Non, ça c'est pas une nouvelle. Hein.
Non, ça c'est pour planter le décor. Cependant, un homme a trouvé une solution pour toucher un gros paquet d'argent sans travailler. Pourtant, cet ancien policier athénien n'est ni riche héritier, comme le chat, ni un spéculateur, il est simplement papa. Divorcé et sans enfant, il se fait passer depuis plus de 15 ans pour le père d'une progéniture de 19 enfants. Grâce à des photos d'enfants trouvées sur Internet, il s'est fabriqué de faux extraits de naissance et autres documents nécessaires à l'obtention des allocations. Il aurait ainsi touché pas loin de 150 000 euros depuis 1996 sur le dos des autorités qui, bernés par de faux papiers, ne l'ont découvert qu'après avoir constaté qu'il était à la tête de la famille la plus nombreuse de Grèce. Arrêté mercredi, alors qu'il allait toucher 8000 euros, il a été déféré au parquet aujourd'hui.
Ce qui paraît un peu logique, finalement. On est dans quelque chose qui, apparemment, est aussi le témoignage d'une vraie maladie grecque.
Oui, tout à fait. Oui, c'est, en Grèce, c'est principalement... la crise est due à justement toutes ces fraudes auprès des impôts et...
Impôts, services sociaux, ouais, tout à fait. Il y a un vrai problème de gestion et de contrôle, et peut-être que la crise grecque finalement s'illustre à travers des exemples comme celui-là. Le plus étonnant quand même, c'est qu'on n'ait pas retrouvé trace des enfants après dans tout le cursus, parce que normalement il y a la naissance, il y a les enregistrements administratifs, il y a l'école, il y a tout ça. Donc,
bah, il avait réussi à se fabriquer tous les papiers nécessaires.
Bah ouais, c'est fou, hein.
Pour obtenir les allocations familiales.
C'est un petit peu fou ça. Tu crois que c'est possible en France?
Je sais pas.
Bah, difficile,
parce que
mais ça
c'est difficile
déjà fait.
À imaginer.
Ouais, non, ça s'est déjà fait. Il y a déjà eu des fausses déclarations de ce type, justement, pour pouvoir toucher un certain nombre d'allocs, et puis c'était passé. Mais bon, c'est sûrement beaucoup plus difficile qu'en Grèce. 19, il a quand même chargé, quoi. Vous savez que dans le temps, il y avait, sur les familles nombreuses, parce que 19, ça éveillerait quand même un petit peu de curiosité de la part de services chez nous. La moyenne des enfants par famille, c'est en gros 2-3, là. Hein. Bon, ça remonte un petit peu, hein, actuellement, en France. Et il y a quelques années, on était encore à pas mal d'enfants. Il y avait même, je ne sais pas si vous le savez, il y avait un prix qui s'appelait le prix Cognac. C'est-à-dire que tous les ans, on donnait un prix. C'était le président de la République qui remettait le prix, c'était sur la 4e République, ça, à une mère méritante, parce qu'elle avait donné beaucoup d'enfants à la nation. Enfin voilà. Ouais. Ça existait à une époque, ça n'existe plus, et tant mieux. Lise! Lise, alors, de quoi vas-tu nous parler?
Eh bien, de grenouilles et
grenouilles.
De crapauds. Donc, les étudiants de l'université Paris 3 Sorbonne Nouvelle ne sont pas sûrs de pouvoir emménager sur l'île au Pivot, dans le 5e arrondissement de Paris, en raison de grenouilles et de crapauds qui y vivent. En effet, les étudiants doivent déménager le temps que leur université soit désamiantée sur cet îlot. Or, pour le Muséum National d'Histoire Naturelle, ces espèces coassent dans les mares du jardin de l'école de botanique, transportent leurs œufs dans les forêts de l'île au Pivot, ou hibernent sous les pierres du jardin écologique du Jardin des Plantes. Elle est inscrite, donc cette espèce, sur la liste rouge de l'Union Internationale pour
elle
la...
Elle s'appelle comment cette espèce?
J'ai pas le nom, désolé.
Enfin, c'est un machin à quatre pattes un peu gluant.
Voilà, entre là, il y a des grenouilles et des crapauds.
Voilà.
Ces deux espèces sont inscrites sur la liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature des espèces menacées dans le monde.
Enfer.
Le 13 décembre dernier, les Verts, donc le parti, déclarent s'opposer à l'emménagement des étudiants sur l'îlot, mais les écologistes ont jusqu'à septembre 2012 pour défendre leur position auprès du ministère de l'Enseignement. Jean Tibéri, c'est le maire du 5e arrondissement, déclare...
Oui, qui a été à une autre époque maire de Paris. Enfin bon, faut même pas le rappeler.
Donc il déclare, à l'automne prochain, une grande réunion sera organisée pour décider de ce qui est fait et pour l'îlot et pour les étudiants, sans oublier bien sûr les crapauds, car aujourd'hui rien n'est prévu pour eux.
Ah, ça, c'est pas sympa de s'occuper des grenouilles et pas des crapauds. Donc, si j'ai bien compris ton histoire, ils vont donc... c'est pour du provisoire, en fait. C'est-à-dire, ils veulent installer provisoirement pour revenir après.
Voilà, exactement.
D'accord. Donc, pour enlever l'amiante, il faut éliminer les grenouilles et les crapauds, c'est ça?
Bah, c'est ce qu'ils disent, oui.
Bah, en gros, ouais. T'en penses quoi, toi?
Moi, je dis qu'ils pourraient aller ailleurs.
Quoi, les crapauds et les grenouilles ou les étudiants?
Non, les étudiants.
Ouais, on les envoie un peu plus loin.
Bah oui, c'est pas. Ouais.
Ça te paraît logique de, par rapport à un gros projet, par rapport à un gros problème, par rapport à un gros aménagement, est-ce que ça te paraît logique de laisser la priorité à une espèce vivante?
Oui, je trouve, parce que de toute façon, enfin, on pourra toujours trouver une autre solution, alors que pour ces espèces-là, c'est parfois très compliqué.
Tout ça nous rappelle la fameuse histoire du, tu me disais justement, on m'en a parlé ce matin quand j'ai parlé du sujet.
Du scarabée, comment il s'appelle ?
Le pic-prune !
Voilà, le pic-prune, qui a empêché l'installation d'une autoroute dans
Mais l'image est très drôle, vous imaginez quand même le dessin magnifique que ça donne. Vous avez un tout petit pic-prune qui est grand comme ça, quoi. Il fait le quart du bout du micro qu'on est en train d'utiliser. Et il est tout seul, là, face au bulldozer qui veut ouvrir l'autoroute. Et avec ses petits bras, il retient tout ça. C'est quand même formidable.
Hein. Oui, oui.
Ça a énervé plus d'une personne quand même.
Oui. Oui, c'est sûr.
Ah ouais, quand il y a des gros intérêts en jeu, oui, le pic prune, les intérêts, lui, il s'en fiche. Voilà. Ok. Stéphanie, nous nous excusons, vous êtes à table, mais Stéphanie vous parle.
Oui. Donc, avec la crise actuelle, des mesures de rigueur ont été prises dans de nombreux pays de l'Union européenne. D'ailleurs, en Espagne, plus précisément en Catalogne, donc la Catalogne qui fait partie des régions autonomes du pays, a été contrainte de mesurer ses dépenses pour soutenir le reste du pays. C'est pour cela que la ministre de l'Éducation, en charge de la partie nord de l'Espagne, a imposé aux écoles une restriction concernant la consommation de papier toilette. Donc, un quota maximum a été fixé à 25 mètres de papier toilette par enfant et par mois.
25 mètres de papier toilette. Il y a quand même quelqu'un qui s'est amusé dans un bureau
à mesurer papier toilette.
Et j'ai sûr qu'ici, personne n'est capable de dire exactement quelle est la longueur de papier toilette. Personne.
Ça devait être assez drôle à voir. Je ne sais pas comment ils ont fait. Mais...
Bon, on va pas faire un sondage pour savoir si on a une petite idée. Mais vraiment, on en est vraiment à des économies tous azimuts. Est-ce que ça te paraît quand même logique d'aller jusqu'à ce type de calcul, finalement?
Bah, je trouve ça bien grave quand même, parce qu'ils auraient pu trouver autre chose. Enfin, on peut, diminuer la consommation de polycopier, par exemple, ce genre de choses. Mais papier toilette, aller chercher jusque-là.
Bon, quelque part, c'est une économie financière, c'est une économie, on va dire, en termes écologiques aussi. Finalement, c'est pas plus mal, hein, on utilise moins. La question qu'on peut se poser quand même, je sais pas si d'ailleurs quelqu'un pourrait répondre à cette question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est arrivé au bout du 25e mètre? À ce temps-là, on ne peut pas répondre à cette question, visiblement.
Je ne sais pas.
Je m'en doute. Justine, tu nous emmènes en Chine.
Oui, donc là-bas, il y a un fugitif en cavale depuis 13 ans quand même, qui a été enfin arrêté cette semaine. Donc ça pourrait paraître pas courant, mais pas vraiment insolite, mais en fait, l'homme était devenu acteur à la télévision chinoise et il avait le rôle-titre dans une des séries les plus suivies dans ce pays. C'est donc en s'exposant au pays entier qu'il est passé inaperçu. Il était recherché pour une agression contre un policier. Pendant quelques années après le crime, il craignait les autorités quand même et passait de travail en travail pour finalement devenir acteur un jour et prendre le rôle le plus prestigieux de la télévision chinoise. Paradoxalement, ce n'est pas son visage qui a mis les autorités sur la piste.
C'est pas des films particuliers, j'espère.
Non, mais c'est... En fait, c'est un tuyau qui a appelé la police. C'est peut-être un ex-complice. Enfin, c'est quelqu'un qui l'a dénoncé, mais ça n'avait rien à voir du tout avec son apparition à la télé.
Bon, alors, quel est le paradoxe qui fait que toi, tu trouves cette info assez insolite, finalement
Pendant 13 ans, avec quelqu'un qu'on doit voir tous les jours, je pense, puisque c'est une série assez suivie, ça me paraît quand même un peu gros que personne ne l'ait jamais reconnu. Surtout qu'il a agressé un policier, et puis il me semble que ça reste assez grave comme crime dans certains pays, même en Chine.
Mais ça rejoint un peu l'idée que plus c'est gros, plus ça passe facilement.
Oui. Quoi,
hein. Plus on s'expose, moins on est vu. Hein. Vous savez que y a pas mal de gens qui disaient, il y a encore très 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 longtemps, hein, que le seul endroit où il fallait pas aller pour ne pas être vu, repéré quelque part, c'était Paris. C'est Paris, à Paris, il y a plein de monde, mais il n'empêche que c'est un point quand même de focalisation et il y a toujours moyen de rencontrer quelqu'un qui vous connaît là-bas. C'est vrai qu'à la campagne, c'est moins évident. Donc là, en Chine, oui, sur tant de millions d'habitants, aller se faire voir à la télé et se faire repérer, il jouait quand même un petit peu un rôle difficile, hein, en l'occurrence. Bon, et finalement, ça y est, il est arrêté, jugé
Oui, il est arrêté, il va être jugé.
Bon, on peut faire confiance aux autorités chinoises pour justement se venger un petit peu de ces 13 ans de pied de nez, quoi. Voilà. Est-ce qu'on pourrait, dans les quelques minutes qui nous restent et qui nous amènent donc à la fin de cet hebdo, évoquer un petit peu Noël, là. Ce serait quoi Noël, un Noël insolite pour vous? Ouais, bah, Lise.
Moi, j'irais bien au soleil. Pas forcément, je dis pas dans le sud de la France, mais Bahamas, Tahiti.
Ouais, simplement. Simplement. Tu emmènerais ton sapin en plastique.
Tout à fait.
Pourquoi, finalement?
Pour voir un peu ce que ça fait. Enfin, on passe toujours le Noël dans le froid, dans la nuit. Bon, je ferais pas ça chaque année, parce que je préfère respecter tradition. Si
les
je peux
images
dire,
classiques, ouais.
Voilà.
Ouais, ouais.
Mais pourquoi pas, si j'ai l'occasion un jour.
Mais est-ce que tu penses que le Père Noël, lui, il aurait le moyen, il se déplace en traîneau, hein, le monsieur, donc là, ça va, il y a de la neige chez nous, mais il n'y a pas de neige aux Bahamas. Alors, tu crois qu'il trouverait une solution quand même?
On y prendrait, il ferait du ski nautique.
Il ferait du ski nautique, ouais, j'imagine. Allez, pourquoi pas. Un Noël insolite pour vous aussi. Qu'est-ce que vous aimez, vous, dans Noël ou les fêtes de fin d'année, principalement? Qu'est-ce qui vous branche dans cette période ou qu'est-ce qui vous ennuie?
Le chocolat.
Pourquoi le chocolat?
Ça m'ennuie pas, hein, ça me branche. Hein.
Ouais.
je sais pas, c'est super bon. Et puis on n'en a pas tout le temps dans l'année, quoi.
Ouais. Pas tout cool. Le temps dans l'année, mais quand même, on en consomme maintenant de plus en plus.
Je parle pas des tablettes, je parle des vrais chocolats. Voilà.
Ouais, parce que les chocolats, quand même, faut voir un truc, c'est qu'il y a, si je vais reparler sur, pareil, il y a une cinquantaine d'années, les boîtes de chocolat, c'était quelque chose qui était quand même assez cher, hein, et c'était pas un cadeau de luxe, mais c'était un beau cadeau. Tandis qu'aujourd'hui, quand le Père Noël, il se pointe chez Auchan ou autre, ou on va pas donner le nom, hein, mais il y a des rayons de chocolat, en veux-tu, en voilà, et bon. Mais beaucoup, beaucoup moins cher, quoi, bien sûr. Oui.
Moi, en fait, je suis vraiment déçu parce que ça fait 16 ans que je fête Noël et je l'ai encore jamais vu, le Père Noël. J'ai toujours raté. Et j'espère que cette année, je vais le voir.
Ah ouais, as-tu une cheminée chez toi?
Oui.
Oui, parce que sinon, c'est pour les gens qui ont un chauffage central ou un chauffage électrique.
Oui.
C'est évidemment beaucoup plus difficile.
Sûr, hein.
Oui. Laurine, à son regard, oui, visiblement, elle n'a pas de cheminée non plus. T'as quoi, toi?
Chauffage électrique.
Ah oui, c'est pareil, tu ne l'as pas vu non plus donc,
non, non plus.
Et pourtant, il est passé, quoi.
Oui.
Ouais, là, il y a quand même un super mystère là-dessus. Ouais, ouais. qu'est-ce que vous attendez de Noël pour vous? Qu'est-ce qui est le plus important, de façon un peu plus sérieuse dans cette période? Justine, toi par exemple?
Moi, les fêtes de fin d'année, c'est surtout se retrouver en famille, entre amis. C'est vraiment passer un bon moment avec les personnes qu'on apprécie. C'est loin, enfin loin de la tradition du grand repas ou même l'origine catholique de la fête. C'est vraiment pour faire la fête, mais quand même pour se retrouver.
Stéphanie, toi de ton côté, C'est quoi Noël pour toi ou les fêtes de fin d'année?
C'est pareil, se retrouver avec la famille et tout, avoir des cadeaux aussi. Hein.
Oui, je vois.
Par contre, ce qui est moins bien, c'est les chocolats parce que, bon, indigestion, après, c'est pas terrible, quoi.
Ouais. Audrey, toi, qu'est-ce qui te pose problème dans cette période-là ou qu'est-ce qui te branche bien?
Alors moi, ce qui me plaît pas, c'est les kilos.
Eh oui.
Et ce qui me branche bien, bah, c'est qu'on mange bien. Donc on mange bien et donc les kilos.
Oui, mais tout à l'heure, là, en préparant un petit peu cette émission, qu'on a quand même un petit peu préparé, vous pouvez nous croire. Et, on évaluait à peu près le nombre de kilos qu'on prenait en 15 jours. On était arrivé à quel chiffre?
À 3 kilos.
Ouais. Et elles ont ajouté 3 kilos et de plus.
Mais 3 ans à les perdre.
Eh oui, voilà. Il faut plus de temps pour s'en débarrasser, effectivement, oui. Laurine, toi, de ton côté
Moi, disons que je suis pas trop Noël. On le fête, mais pas depuis longtemps. C'est pas du tout un truc où on est habitué à le faire, tout simplement parce que les repas de famille, on peut en faire pas qu'à ce moment-là. Et puis, nous, on part du principe que pourquoi nous avoir un bon repas qui parfois peut coûter les yeux de la tête, avoir 36 000 cadeaux et que d'autres personnes n'ont strictement rien. Donc, on part de ce principe-là.
Sur ce point-là, c'est vrai que les déséquilibres restent très apparents entre ceux qui sont submergés de cadeaux. Oui. On a l'impression que le Père Noël, il a renversé un peu sa hotte à certains endroits. Et puis qu'à d'autres endroits, il a carrément oublié de la pencher un petit peu pour renverser. C'est vrai que c'est aussi ce côté injuste qui apparaît. J'aimerais qu'on parle d'un sujet justement qui est devenu très à la mode depuis quelques années. Et moi, je vais vous dire qu'il commence à me gonfler sérieusement. Je parle pas des repas. Hein, ça, oui, ça me gonfle aussi, mais autrement. C'est l'histoire des marchés de Noël. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette nouvelle mode des marchés de Noël, plus ou moins vrais, plus ou moins faux? Vous y allez, vous, Laurine?
Non, pas du tout. Ou alors, quand je passe devant un marché, juste regarder vite fait ce que les commerçants ont. Mmh. Mais non, ça ne m'intéresse pas vraiment.
Audrey, toi, les marchés de Noël, ça t'intéresse, là?
J'y étais le week-end dernier au Mans.
Ouais, sur la place de la République.
Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu as... T'as trouvé ça intéressant?
Non.
Hein, puisque moi, j'ai volontairement donné l'angle. Ça va être sympa. Moi, j'ai volontairement dit... Ouais. Ils vont réagir, ils vont dire le contre. Mais non, alors, si vous allez dans le même sens, ça va être embêté, là.
Bon, on voit rien, il y a trop de monde. Et puis, c'est toujours pareil. Enfin,
c'est sympa, le monde, quand même.
Ouais, c'est sympa.
La musique.
Ouais, mais il pleuvait, alors c'était pas...
Ah, c'est beaucoup moins sympa, oui. Pierre, toi, les marchés de Noël, ça t'inspire Est-ce que tu fais partie des gens, par exemple, qui aimeraient, qui rêvent d'aller faire un voyage à Strasbourg, par exemple, où il y a des plus beaux marchés de Noël, ou le petit marché de Noël de ta commune à côté?
Ben non, pas trop.
J'ai vaguement l'impression que tu t'en fous un peu.
Ouais. Ah. Non, mais enfin, pour moi, Noël, c'est une tradition. Je suis pas trop pour les traditions, quoi.
Pas trop.
Enfin, je veux dire, c'est pas ce qui va nous faire avancer.
Justine, marché de Noël, toi, ça t'inspire un petit peu? Et peut-être sur les produits qu'on y trouve, par exemple?
Moi, je trouve ça sympa parce que c'est vrai.
On est sauvés. On a trouvé quelqu'un qui était pour.
Je trouve ça sympa.
Argumente. Vas-y. Faut
c'est vrai
équilibre.
Que on trouve des produits alimentaires, par exemple, typiquement pour les fêtes de Noël, pour les fêtes de fin d'année. Après, il y a les décorations de Noël aussi, les sympas et tout. Mais après, je trouve qu'il faut vraiment, marché de Noël, en voir partout. Voilà, ça devient gonflant. Enfin. On fait des marchés de Noël pour rien ou
On fait un marché de Noël pour faire un marché de Noël.
Voilà, c'est ça.
Lise.
Moi, je trouve que les marchés de Noël, ça peut être bien, mais pour par exemple des gens qu'on connaît pas, offrir des cadeaux à des gens qu'on connaît pas du tout, des amis ou qu'on voit une fois dans l'année, des cadeaux un peu bateaux, quoi. Parce que sinon, je trouve que c'est...
Alors ça, c'est de la super promo pour les marchés de Noël.
Non, mais je trouve que c'est assez impersonnel.
Trucs, on s'en fout, ça sert à rien. On va offrir ça éventuellement, ou demander ça que le Père Noël la mette.
Il y a des choses qui peuvent être bien.
Il y a des gens dont on se fout complètement. Oh, c'est sympa, Lise.
En général, quand on va...
ça donne envie.
Quand on veut offrir un cadeau à quelqu'un, c'est plus personnel. Bon, ça, il y en a un peu... Enfin, les marchés de Noël, en général, c'est plutôt typique régionalement, à ce niveau-là. Mais ça va pas être très personnel comme cadeau. Je trouve que... Surtout qu'en général, si on achète quelque chose à quelqu'un de proche, il risque d'habiter dans la même région. Donc ça va pas trop l'intéresser, quoi.
Et Stéphanie, qui s'est pas exprimée sur les marchés de Noël?
Moi, j'y suis jamais allée au marché de Noël. Donc
ça m'intéresse pas trop.
Alors, il y en a un bientôt hein, à Ciel-Guillaume, c'est le week-end prochain. Il y a celui du Mans.
Oui, bah, j'arrive à vivre sans. Hein,
tu arrives à vivre sans, ben voilà. C'était donc un grand moment de promotion des marchés de Noël. L'un des problèmes des marchés de Noël qui est soulevé actuellement, c'est effectivement le décalage qu'il y a entre des marchés qui pourraient faire la promotion des produits locaux. Hein, moi je suis allé voir celui de Mayenne, je suis passé à Mayenne il n'y a pas très très longtemps, il y a une quinzaine de jours, il y en avait un. Il y avait le producteur, l'éleveur d'escargots du coin, il y avait quelques vendeurs de vin, de fromage de chèvre, enfin bon, ce qu'on trouve sur un marché classique. Et puis on retrouvait évidemment toutes sortes de produits, comme on le disait aujourd'hui, où en soulevant un petit peu de sous, au lieu de voir produits locaux, on trouve du made in China, hein, ce qui pose un peu problème. Donc voilà, il y a un côté traditionnel, promotion des produits locaux, ça c'est sûr, c'est quelque chose de sympa. Hein, l'idée de cadeaux, je sais pas, le miel de pays, la terrine du pays, tout ça c'est quand même sympa. C'est des idées de cadeaux assez agréables, ou même de consommation pour soi. Donc ça paraît positif. Mais après, il y a ce qu'on peut appeler tous les marchands du temple, tous ceux qui font tous les petits marchés de ci de là avec les mêmes produits, le bonnet péruvien, les objets en bois pseudo-artisanaux et qui en fait sont fabriqués à l'autre bout du monde, on ne sait pas forcément par qui et dans quelles conditions, enfin voilà, donc c'est un petit peu ça le problème. Ceci dit, c'est une ambiance sympa en ville,
hein,
ça donne de la lumière, ça permet aux gens de flâner, bon, donc c'est pas forcément désagréable. Vous attendez quoi du Père Noël, vite fait, Laurine?
Une Wii.
Une Wii?
Oui.
Eh ben non. Oui. André?
Moi du parfum.
Ouais. Pierre, du parfum, non?
Ah non, moi, ce sera mon permis de conduire, moi.
Le permis de conduire.
Ça sera dans 2 ans.
D'accord, un permis de traîneau, oui, ce sera utile.
Moi, c'est une nouvelle chambre, enfin une partie de ma nouvelle chambre.
Waouh, oui, un peu de confort.
J'ai pas encore fait ma liste, en fait.
Ah, tu verras, tu verras.
Ouais.
Tu verras, comme dirait Lise, il y a bien quelqu'un qui va passer par un marché de Noël et qui va trouver une idée géniale.
Moi, c'est un appareil photo.
Un appareil photo, ben voilà, et ben il n'y a plus qu'à voir si le Père Noël va vous amener tout ça tranquillement. Enfin, en tout cas, nous on a passé un petit moment qu'on espère avoir été sympa pour vous, amis auditrices et auditeurs, avec Laurine, Audrey, Pierre, Lise, Stéphanie et Justine, pour conclure cet hebdo des lycéens, le dernier de cette année 2011. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.